Bonjour tout le monde, bienvenue au Golf Podcast, le podcast où on jase de golf entre filles. Aujourd'hui, je suis encore avec la professionnelle de golf de Québec, Elisabeth Asselin. Salut Élie.
Salut tout le monde.
Comment ça va?
Comment ça va? Ben, moi, ça va super bien. Ça va super bien. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, la saison est entamée à plein. Je sais pas pour toi, mais ouais. Moi, ça roule. C'est vraiment chouette. Je pourrais pas espérer une meilleure saison, je pense.
Non, non, c'est vraiment, vraiment une belle saison de mon côté aussi. Sujet aujourd'hui qui me fait plaisir. Qui me fait plaisir parce que quand je faisais de la compétition au golf, c'était mon endroit préféré. Et on parle du champ de pratique aujourd'hui. Donc, toi, Élie, t'étais-tu une fille qui pratiquait?
Hey, moi, là, je suis une grande pratiqueuse. Pendant un bout, là, je préférais pratiquer que jouer pendant un bout de ma vie. Là, j'adore pratiquer. J'adore être dans le champ de pratique, faire des exercices, poter, chipper. J'adore ça.
Oui, bien, ouais. Moi aussi, j'aimais beaucoup, beaucoup. Plus jeune, j'aimais beaucoup le champ de pratique. J'étais quelqu'un qui était très technique. J'adorais, comme tu disais, faire des exercices techniques, continuer à apprendre sur l'élan et tout et tout. Mais dans mes dernières années de compétition, puis encore aujourd'hui, maintenant qu'on pratique, bon, on n'a pas vraiment le temps, mais pour le temps qu'on a, j'aime mieux être sur le terrain. J'aime mieux aller faire un tour sur le terrain. J'aime mieux pratiquer sur le terrain parce qu'il y a cette option-là qui existe. Mais le champ de pratique est comme un petit peu moins attrayant qu'il l'a déjà été. Je me rappelle dans certains camps de golf là, avec le Rouge et Or, là, on pouvait passer des heures ensemble à pratiquer avec la musique puis avoir bien du plaisir à le faire. Mais maintenant, je te dirais que si j'avais le choix, j'aimerais presque mieux aller jouer un 9 trous, quitte à reprendre quelques coups ici et là, que de passer une heure et demie, deux heures comme j'ai déjà fait dans le champ de pratique.
Mais je suis d'accord avec toi. Si j'ai le temps, là, si j'ai une heure, je prends mon cart, je pars jouer quelques trous, deux, trois balles en même temps. Ou si des fois, j'étais avec ma sœur au club, là, qui est membre maintenant au club au Val-Québec avec moi. Puis des fois, on dit « Ah, on va-tu juste pratiquer sur le terrain? » On s'installe souvent à 100 verges, puis on frappe des wedges, puis on s'installe quelque part. Là. Fait que ouais, sur le terrain, c'est sûr que c'est maintenant, c'est beaucoup beaucoup plus chouette que le champ de pratique dans le fond. Ouais.
Mais avec toutes ces heures-là qu'on a mis dans le champ de pratique, plus maintenant nos connaissances et nos habiletés en tant qu'enseignante, je pense qu'on va être capable de jaser avec entre nous pour démontrer un petit peu aux gens, ou du moins conseiller les gens sur comment pratiquer efficacement dans le champ de pratique. Mm-hmm. Trop souvent, je croise des élèves, puis je suis comme « Ah, et puis la pratique, ça a bien été. Ah, je suis venue frapper des balles avant ma game. » Ça s'appelle un réchauffement, puis on va en parler là, vers la fin du podcast, là, dans le fond, l'importance du réchauffement d'avant-partie, puis la séance d'avant-partie, qui ne compte pas comme une pratique, là, d'ailleurs, là, c'est un réchauffement. Mais je vois trop souvent des gens qui sont dans le champ de pratique, puis qui pratiquent, mais qui optimisent pas leur gain, je pense, c'est surtout ça.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Souvent, les personnes que je donne des cours aussi, là, ils font juste les warm-up d'avant-partie, puis c'est rare qu'ils prennent des journées de repos de terrain de golf pour venir pratiquer, mettons, une heure et demie, deux heures, les aspects qu'on a pratiqués ensemble. Ça, c'est vrai que ça arrive un peu moins souvent que les gens prennent le temps de le faire. Fait qu'on va démystifier ça aujourd'hui, justement. Comment s'entraîner dans le champ de pratique comparativement au warm-up qu'on appelle l'échauffement d'avant-partie.
Ouais. Ouais, puis je pense qu'avant avant d'arriver directement à quoi faire ou du moins à encadrer les gens un petit peu plus dans le champ de pratique, il y a une chose, je pense, qui est importante à comprendre. Du moins, tu donneras ton avis après, Élie, sur ce sujet-là. Mais moi, je crois vraiment qu'il y a trois étapes à l'apprentissage d'un nouveau mouvement ou l'amélioration d'un élan. Le premier, c'est d'être capable de vraiment appliquer la technique. Donc, vraiment, juste de dire, « Ah, par exemple, j'aimerais amener mon bâton dans tel angle ou j'aimerais aller chercher une rotation au niveau du haut du corps. » il y a une première étape qui est d'être capable d'effectuer le geste. Donc, qui moi, je rattache souvent aux mots fondamentaux, mais c'est vraiment technique. C'est un bloc technique. Et par la suite, il y a vraiment un bloc de pratique en réussite, ou du moins, il faut être capable de l'exécuter avec une meilleure répétition. Alors, augmenter son taux d'efficacité, son taux de réussite, mais aussi inclure ce point technique-là sur une trajectoire de balle. C'est beau de tourner plus les épaules, mais si en tournant plus les épaules, le timing n'est pas long, puis on frappe des snaps, la finalité n'est pas vraiment mieux. Puis la troisième étape, après, bien, c'est le parcours. Donc, tant et aussi longtemps que les premières étapes ne sont pas accomplies, c'est sûr que le taux de réussite sur le parcours va être plus difficile à aller atteindre. Donc, c'est vraiment plus le taux en fondamentaux augmente, plus le taux en trajectoire augmente, bien, plus le taux tranquillement sur le terrain va augmenter si on s'entraîne d'une manière optimale.
Mais c'est vraiment ça. Puis je sais pas si tu fais ça dans tes cours, mais tu montres un mouvement à la personne à faire. Puis la balle n'est pas réussie, mais tu vois que le mouvement que la personne fait est réussi. Puis là, tu dis « Oui, c'est ça, Monique. Tu l'as vraiment bien eu, ce mouvement-là. » Puis elle dit « Oui, mais là, Élie, j'ai topé ma balle. » Non, ça, c'est pas grave, ça va. Ça va venir. Fait, au début, moi, je l'appelle maintien, là, ou je l'appelle changement ben, technique, souvent, là, cette petite partie-là. Puis ensuite de ça, ben, tu consolides en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions réussies vers ton objectif qui est la cible, le 100 verges, etc. Tu consolides avec moi j'appelle ça du volume, comme toi tu dis des réussites.
Oui, ben exactement, c'est parce que d'être capable d'effectuer un mouvement technique, c'est bien, mais de le synchroniser dans un élan, c'est autre chose. Puis ça prend quelques balles, tu sais, ça prend quelques balles. Souvent, moi j'ai l'habitude de dire 3 aux gens, comme ça ils voient pas ils pensent pas que ça prend un panier de balles au complet, mais la réalité c'est peut-être 3 à 5 balles avant que votre corps commence vraiment à synchroniser un nouveau mouvement, puis à comprendre que ce mouvement-là ne vient pas nuire à l'effet sur la balle, mais du moins de faire confiance à ce qui se passe là, dans votre nouveau mouvement, ou du moins avec cette nouvelle correction-là. Donc, une fois qu'on a ça en tête, qu'on travaille sur un point plus technique, qu'on l'amène après ça plus en volume et que par la suite, on l'amène sur le terrain, bien, ça va directement influencer notre parcours de pratique, dans le fond, notre plan de pratique au champ de pratique. Petite histoire rapide, dans mes années du Rouge et Or, c'est ce que j'ai appris. En fait, j'ai appris à m'entraîner de manière plus efficacement, puis tout était très travaillé. Il y avait une raison pourquoi on faisait tel bloc, il y avait une raison pourquoi on faisait telle chose, pourquoi on choisissait tant de réussite à telle distance. Tout était très calculé. Après, c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Il faut pas que ça soit aussi calculé si vous le souhaitez pas. Mais je pense que d'au moins avoir une petite structure, d'avoir un petit plan, et ça peut être écrit sur le coin d'une napkin. Juste d'avoir un petit plan, dire « OK, aujourd'hui, j'aimerais ça passer soit en nombre de balles, soit en nombre de temps, comme vous le souhaitez. » De juste planifier un petit peu. Trop de gens vont commencer un panier de balles, puis ils vont arriver à moitié, puis ils vont faire « Ouais, mais je fais quoi, là? » Puis puis là, dans le champ de pratique, on les voit, puis ils sortent driver, puis ils frappent 25 drivers, tu sais. Fait que c'est bon d'avoir un petit plan, puis d'être capable de le suivre à travers, puis c'est de ce plan-là qu'on va parler ensemble aujourd'hui, là.
Ouais. Mais toi, est-ce que tu serais plus un plan en minutes ou un plan en balles? Comment tu le vois?
Les deux. Je pense que... Je me restreins jamais à un ou à l'autre parce que la réalité, tout le monde est différent. T'sais, si vous allez dans un champ de pratique public, ben, vous avez une restriction de balles. Fait que j'irais peut-être plus en balles à ce moment-là. Si vous êtes dans un club de golf ou du moins dans un champ de pratique où vous avez accès à des balles illimitées, ben, de vous donner un nombre de minutes ou du moins juste pour vous guider un petit peu, je pense que ça peut être l'idéal. Mais dans la situation où j'ai carte blanche, je pense que je prends minutes. Avant balle.
Ah ouais, tu prends minute. Ouais. Moi, je prends balle. C'est pourquoi? Moi, je prends minute pour ma technique, par exemple. Fait que je vais dire, je vais faire 20 minutes de mon exercice qui s'appelle drill 1, je sais pas. Fait que je prends 20 minutes, je focus juste sur le drill. Fait que je pars mon chrono, je fais mon drill 1. Puis ensuite de ça, quand je passe en volume, donc de réussir, je sais pas, mon fer 9 10 fois sur le verre, ben j'aime mieux justement réussir 10 fois. Parce que si je me mets 30 minutes, mais que je fais 30 minutes de balle ratée, ben, je considère pas que j'ai réussi mon volume. Tu vois un peu pourquoi? Ouais. Quand j'ai réussi 10 balles, là, c'est correct. Fait que ça peut me prendre 5 minutes, comme ça peut m'en prendre 45. En effet, dans ton champ de pratique public où tu as des balles limitées, il va falloir que tu sortes un peu ton portefeuille, peut-être, là, pour en repayer d'autres. Mais puis après ça, si j'ai le temps, tout dépendant, puis C'est ça l'affaire. C'est quand on a réussi notre volume puis on voit que ça fonctionne bien, notre coup, c'est qu'on dit qu'on part à on passe à la portion parcours ou la portion, dans le fond, performance. Dans le fond, on veut voir si ce qu'on pratique va être prêt pour le terrain. Mais là, moi, j'aime bien finir avec 2 balles de suite ou 3 balles de suite avec mon fer neuf sur le verre. Donc, toi, j'aime aussi ta formule qui est, tu sais, regarde, je prends 10 balles puis je vois combien j'en réussis sur 10, ou je prends 5 balles, je vois combien j'en réussis, puis ça me donne un pourcentage. J'aime beaucoup ta façon, puis moi, je le faisais moins depuis quelques temps, je faisais plus des 2 de suite pour mettre un petit peu de pression à la fin de ma pratique comme défi. Je sais pas si toi, tu faisais ça un petit peu.
Oui, bien, tu sais, c'est exactement ce que moi, je faisais dans le fond, dans le champ de pratique, ce que j'aimais faire, puis on va continuer là-dessus, mais on va juste bifurquer en expliquant les 3 zones. Puis on fera du pouce sur les 3 zones après par rapport à comment nous, on aimait s'entraîner. Puis moi, j'aimais beaucoup, beaucoup m'entraîner au champ de pratique. Donc, ça va me faire plaisir de le partager avec vous. En fait, on a dit, il y a 3 sections à l'entraînement. Il y en a 4 réellement. Le premier, c'est un réchauffement. Donc, que ce soit en termes de balle ou en termes de temps, il y a un réchauffement à faire que vous venez pratiquer ou vous alliez jouer. Le réchauffement ne sera pas pareil dans les 2 cas. Un réchauffement avant une pratique très rapide va être beaucoup plus physique. Donc, en faisant des rotations, en faisant des exercices de souplesse, d'activation, des choses comme ça, parce qu'on va frapper un volume de balle qui est plus grand. Après ça, votre réchauffement d'avant-partie, qu'on va parler plus vers la fin de ce podcast-ci, va vraiment plus... comporter des balles, frapper différents bâtons et tout, et tout. Là, on parle vraiment de pratique. Quand vous allez au champ de pratique pour effectuer un entraînement ou du moins une petite séance. Donc, après avoir fait votre petit réchauffement, ça veut dire que votre corps est prêt à frapper un volume de balles. On tombe sur la première partie que moi, j'appelle fondamentaux, que toi, tu appelles plus technique, je pense.
Ouais,
ou maintien, okay. Ouais. Donc, le but de cette partie-là de l'entraînement est vraiment de travailler un point technique. Donc, souvent avec votre enseignant, du moins si vous travaillez avec nous, tous vos enseignants, je suis pas mal sûre, vont vous donner la même structure, vont vous donner des exercices, vont vous donner des repères, vont vous donner des façons de travailler à savoir si vous exécutez bien ce changement technique-là, oui ou non. Que ce soit baguette d'alignement, que ce soit du vidéo, si vous avez votre téléphone avec vous, que ce soit si vous avez un launch monitor, si vous avez un Trackman, FlightScope, Foresight là, de ce monde, des chiffres à regarder, des choses comme ça, c'est sûr que vous avez une référence ou c'est ce que vous allez travailler. Avec, tu as parlé de drill tantôt, Ellie. 1, 2, 3 drills, une évolution de drill, peu importe, ce temps-là qu'on va appeler fondamentaux ou technique est vraiment pour ancrer un mouvement. Donc, ce temps-là n'est pas pour juger ce que la balle fait. Ce temps-là n'est pas là pour juger la distance qu'on fait, la qualité de l'impact. Cela est vraiment, vraiment pour améliorer un point technique qu'on a fait par la suite d'une leçon, par exemple. Toi, Ellie, souvent, est-ce que avec tes élèves, tu leur donnes vraiment 1, 2 exercices à travailler spécifiquement dans leurs entraînements?
Oui, je leur fais souvent, c'est l'exercice qui a été fait dans le cours ou le dernier exercice qui a été fait dans le cours, des choses comme ça, mais il y a toujours un exercice, puis normalement, ils sont assez outillés pour être capables de savoir quand ils l'ont, quand ils l'ont pas. Et comme tu dis tantôt, des repères, que ce soit des repères externes qu'on voit quand on réussit sur la vidéo ou en passant une tige au sol, puis quand on touche la tige, on sait qu'on l'a ou on l'a pas. Et c'est surtout ça comme exercice que je donne à faire. J'aime beaucoup les exercices d'impact avec juste genre faire des petits punches avec un demi-swing pour voir l'impact, là, dans le fond, pratiquer soit un niveau plus creux, moins creux, tout dépendant des personnes. Fait que ça, j'aime ça faire des choses comme ça. Ouais.
Ouais, puis moi, dans le fond, dans mes entraînements personnels, cette section-là, c'était étonnamment la section où je rappelle moins de balles. Pourquoi? Parce que je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. J'allais souvent aller placer mes mains où je voulais qu'elles soient placées. J'allais exagérer une rotation d'épaule que je voulais exagérer. Je faisais des erreurs à faible intensité pour essayer de mieux comprendre comment physiquement je devais me rendre à ce point-là. Donc, c'est un bloc technique qui souvent me demandait des fois beaucoup de temps, mais pas nécessairement beaucoup de balles.
C'est bon ce que tu dis. Pas trop de vitesse quand on veut améliorer un mouvement. Beaucoup de swing dans le vide ou beaucoup de montée où est-ce qu'on veut faire notre mouvement. Super, super important. Et il faut exagérer le mouvement qu'on veut faire. Fait que si ton prof te dit « fais ça comme ça », exagère-le. Puis tu vas penser que tu l'as. Non, tu ne l'as pas jusqu'à temps que ton prof te le dise. Exagérer le mouvement. C'est
ouais.
vraiment important.
Oui, exactement. Puis c'est pour ça qu'on l'appelle un bloc technique. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de cible encore.
Non.
Parce que c'est vraiment d'inclure un mouvement, un angle, un axe, une amplitude. T'sais, mettez tous les termes techniques que vous pouvez aller chercher. C'est vraiment l'objectif. Mais dans le deuxième bloc, là, tout vient de changer et on tombe dans un bloc que moi, j'appelle réussite, que toi, tu appelles plus volume. J'aime beaucoup le mot volume. Je trouve que ça l'explique bien le but. C'est des balles. C'est des balles, des balles, des balles, des balles, des balles. Le but de ce deuxième bloc-là est de synchroniser le mouvement technique que vous avez travaillé. Synchroniser ne veut pas dire 8 swings de pratique, veut dire synchroniser, on frappe une balle, il faut frapper des balles pour être capable d'aller justement inclure ce mouvement-là dans votre élan qui est plus naturel, dans votre rythme qui est plus naturel, dans un tempo qui est plus naturel. Et là vient la notion de cible.
C'est ça. On focus moins sur le swing, puis on focus beaucoup plus sur la cible. La réussite est en fonction du résultat de la balle et non en fonction du résultat du chemin de notre corps. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça.
Exactement, exactement. Ouais. On n'essaie plus de faire quelque chose, mais on essaie plutôt de fabriquer une sortie de balle. On veut une trajectoire de balle, on veut une direction de balle. Et l'autre chose aussi, dans le mot synchroniser, beaucoup de gens, souvent, vont rater complètement leur coup. Et là, je leur demande, mais vous visez quoi? Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, la direction des mains, le fameux release, la direction des mains post-impact. Et là, je dis, mais vous visez où? Ben, nulle part. Ben, les mains, comment elles peuvent savoir où ils s'en vont post-impact si on vise rien? C'est sûr que des fois, ils vont aller à gauche, puis des fois, ils vont aller à droite, puis des fois, ils vont aller trop haute, puis des fois, ils vont aller trop basse, parce qu'ils n'ont pas de cible. C'est comme demander à quelqu'un qui joue au dard de lancer un dard sans regarder le board. Tu sais. Ça se fait pas. Après, quelqu'un qui connaît le board par cœur, peut-être, mais encore là, il y a une synchronisation, une coordination plutôt, mains, yeux, balles qui s'exerce, et c'est exactement à ce moment-là qu'on veut travailler au niveau de la réussite. Élie, quel genre d'exercice tu conseilles, toi, dans un bloc de volume ou de réussite?
C'est bien plat, c'est super facile. J'essaie de regarder les drapeaux qu'il y a proches. Puis, tout dépendant de ce que je pratique, je vise un drapeau, je me mets une cible qui est autour du drapeau, qui est souvent la grosseur d'un verre de golf. Puis, quand j'ai un bon contact, puis j'ai une direction qui va vers mon drapeau, bien, c'est réussi. Puis, je m'en cible peut-être 5 à 10 balles réussies avant de passer à un autre bâton.
Exact. C'est exactement ce que je faisais. Au Country Club de Montréal, j'ai déjà mentionné dans d'autres podcasts, on est limité à 150, à l'époque, 175 verges. Ce qui donne qu'on avait environ 5 drapeaux. Là. Il y avait 30, 75, 100, 125, 150 et 175 à l'époque. Ça donnait 6 drapeaux. Là. Souvent, je m'installais dans le champ de pratique et je frappais 8 à 10 réussites par drapeau, dépendamment du temps que j'avais devant moi. Puis, si j'étais rendu à 4, je continuais jusqu'à temps que je sois rendu à 8, par exemple. Et là, je changeais de drapeau après 8. Et j'allais jusqu'au bout. Des fois, je m'amusais 5, mais je faisais l'aller-retour. Donc, je variais un petit peu au niveau de ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que on s'approche tranquillement de la réalité qui est sur le parcours. La plus grande erreur qu'on voit chez les golfeurs amateurs, c'est qu'au champ de pratique, ça va bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cible, il n'y a pas de conséquences. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ça au golf. Au golf, on a un coup à jouer. Si vous jouez 100 dans votre partie, vous jouez 100 coups différents. Il y en a aucun qui sont pareils. Donc, c'est important, tranquillement, d'évoluer vers cette réalité-là dans votre pratique. Et c'est pour ça que la troisième, le dernier bloc de votre pratique, moi, je l'appelle simulation. Comment tu l'appelles, toi, Élie? Simulation.
Performance. Ouais. Performance, moi.
Ouais. Exactement. Donc, performance ou simulation, c'est le temps de vous mettre un petit peu de pression. C'est le temps de vous mettre un challenge. Si vous êtes avec des amis, c'est peut-être le temps de prendre des petits paris amicaux du genre qui fait la vaisselle, qui paye la slush, qui paye la bière après. Et la nuance entre la réussite et la simulation, c'est qu'il y a un objectif clair, défini dans un temps ou un nombre de balles défini. Ce qui veut dire qu'il y a une conséquence à votre réussite ou non, à votre accomplissement ou non. Donc, on peut penser, par exemple, si je prends la même référence que je prenais au Crunch Club de Montréal, c'est que je pouvais me donner, par exemple, 3 vies pour réussir 3 balles consécutives sur chacune des cibles. Donc, par exemple, je m'installais, je réussissais mes 3 premières balles au drapeau de 30 verges sans en rater une. Parfait, je passais au deuxième et j'évoluais comme ça. Par contre, si je ratais 1 balle, je ratais 2 balles, je ratais 3 balles, mais j'ai pas réussi cette situation-là. Même chose, on parle de champ de pratique, mais ça vient évidemment avec les coups d'approche puis avec le putting. Ça m'est déjà arrivé de me mettre une conséquence qui était un luxe. Par exemple, je vais arrêter me chercher, pour pas le nommer, chercher un McFlurry au McDo. Attends, je vais me chercher une crème glacée. Si je réussis, par exemple, 15 putts consécutifs à l'intérieur à 4 pieds, mettons, je peux aller me chercher une crème glacée. Si je ne le réussis pas, je ne vais pas m'en chercher une. Après ça, vous allez dire que c'était peut-être un petit peu intense, mais c'est quand même le genre de petit stress, et je mets petit là, pour une crème glacée, mais ouais. C'est le genre quand même de conséquences que vous avez sur le parcours. C'est ça l'idée.
C'est au-delà de la crème glacée, c'est juste de réussir quelque chose. T'sais. Moi, je dis à mes élèves, finissez avec un petit défi. Vous ne pouvez pas partir avant d'avoir réussi le défi. T'sais. Fait que là, à un moment donné, quand ça fait 2 heures que tu fais ton défi, soit qu'il est trop dur, ou soit que crime, tu vas être bien plus stressé. Fait que le défi, il te met vraiment en situation comme sur le terrain. C'est bien important. Fait que je pense que c'est 3, la technique, le volume, puis la performance, se mettre sous pression. Les 3, il n'y a pas une étape qui est mieux que l'autre. T'sais. On ne pourrait pas dire c'est quelle l'étape la plus importante. Il n'y en a pas. C'est les 3, en ordre qui sont bien importantes. Fait qu'il faut bien consolider dans le volume ce qu'on fait dans la technique. Puis ensuite de ça, il faut se stresser un petit peu pour que sur le terrain, ben, au 18e trou, quand on va jouer notre meilleur game à vie, ben, on réussisse nos coups encore.
Oui, puis encore plus loin que juste la meilleure partie à vie, ça reste aussi le golf en tant que tel. Moi, j'ai souvent mentionné ou dit que pour moi, la façon de jouer 72, c'est d'accomplir 72 petites victoires. Donc, si sur le terrain pratique, je suis capable de recréer cette sensation-là de un coup égale une petite victoire à aller chercher, mais si je suis capable de l'accomplir 72 fois, bien, j'ai accompli mon objectif de jouer 72, par exemple. Donc, sur le parcours, c'est la même chose. Si, par exemple, vous avez un par 5 et vous savez que pour vous, 6 sur un par 5, c'est votre score qui est très bon, bien, c'est 6 petites victoires que vous devez aller chercher. Si dans le champ de pratique, vous les avez pratiquées, ces 6 petites victoires-là, bien, en fait, ça va être plus facile à aller répliquer, puis du moins, ça va être du déjà vu, du déjà connu. Ça va être plus facile, votre rythme, votre tempo, votre attention, votre concentration va déjà être un petit peu plus précise.
Puis, pour conclure, dans le bloc de pratique quand on vient pratiquer, moi, ce que je veux bien cibler, c'est tout le temps, plus qu'on a de la difficulté à faire quelque chose, plus il faut mettre du volume dans le mouvement. Plus on a de la facilité dans quelque chose, puis on peut se mettre sous pression. Donc, avant une compétition, moins de volume, plus d'intensité, plus de pression. Début de saison, hiver, automne, beaucoup, beaucoup de volume. Ou juste un coup qu'on a de la difficulté, par exemple, faire des effets de balle ou sortir d'une trappe de sable ou faire des coups lobés, des coups qui sont beaucoup plus difficiles, beaucoup de volume. Puis on va en venir à se mettre sous pression là-dessus.
Oui, exactement.
C'est ce que je pourrais dire.
C'est pas le temps une semaine avant votre interclub ou votre championnat de club de vous installer 1h30 dans le champ de pratique et faire de la technique pendant 1 heure. C'est pas le temps. C'est le temps de faire beaucoup plus de simulations puis de vous mettre dans des situations où vous savez que vous allez devoir exécuter un coup et non pas faire un élan parfait. Donc c'est vraiment la différence entre les trois. Donc, on a parlé vraiment de ce qui est plus entraînement au champ de pratique, qui est un concept qui s'applique autant, comme j'ai dit, aux jeux courts et aux cours roulés. Mais on a soulevé un petit sujet tantôt qui est très important. C'est le réchauffement d'avant-partie. On va conclure le podcast en discutant de ça un petit peu. Élie, est-ce que tu vois une erreur fréquente chez les réchauffements d'avant-partie des gens?
La seule erreur que je vois, c'est d'essayer de pratiquer dans le fond, dans le warm-up, plutôt que de s'échauffer. Dans le warm-up, on veut se préparer, on veut frapper quelques balles, on veut se mettre en confiance pour aller jouer sur le terrain. On veut vérifier nos distances. Souvent, j'avais parlé de manière à Anne-Catherine Tanguy, puis elle nous disait que elle, son warm-up, c'était vraiment pour vérifier ses distances. Elle, vraiment précisément, mais ça m'avait quand même marqué qu'ils vérifiaient leur distance vraiment au début de la journée, en fonction, j'imagine, de la pression atmosphérique, puis je ne sais pas quoi. Elle
Bien, c'est
vérifiait
sûr que la
vraiment beaucoup ses
température.
distances, la température
C'est
beaucoup, beaucoup.
température,
Ouais.
humidité, surtout s'ils jouent en altitude, peut-être aussi. Il y a plusieurs facteurs des fois qu'on ne pense pas. Mais des fois, juste aussi notre flexibilité. Une journée probablement qu'on est un petit peu plus flexible, un petit peu moins flexible, ça peut influencer. Mais effectivement, moi aussi, il y a ça. Mais l'autre erreur que je vois beaucoup, 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 c'est le jugement. Les gens qui vont dans le champ de pratique pour juger si leur journée va bien se passer ou pas bien se passer. C'est une pression énorme. Vous n'avez pas encore fait une rotation, vous n'avez pas fait un exercice de réchauffement, vous n'avez pas frappé encore une balle. Et votre journée dépend des trois ou quatre premières balles que vous allez frapper au champ de pratique. C'est comme demander à un coureur de 100 mètres de dire, ah ben, ton premier tour de piste, cours-les parfaitement parce que sinon ta course de 100 mètres ne sera pas bonne. Oh, non, non, non. Les coureurs courent probablement. J'ai pas de données là, mais ils doivent quand même courir une certaine distance avant d'être capables d'aller chercher leur performance optimale. Bien, au golf, c'est la même chose. Ça prend un certain temps ou du moins un certain volume de balles avant d'aller chercher l'optimal. Et c'est ça le but d'un réchauffement, c'est de préparer votre corps à frapper de façon optimale pendant 18 trous. Donc, un réchauffement qui est trop court, donc 4 ou 5 balles, ou un réchauffement qui est trop long, qui est par exemple 1h30 de champ de pratique, ben les deux ne sont pas productifs. Les deux ne seront pas nécessaires. Je pense qu'un réchauffement peut durer 20 à 40 minutes, là, dépendamment vos objectifs puis ce que vous accomplissez. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une intention dans le réchauffement. Donc, votre intention dans le réchauffement, par exemple, ça peut être, comme Anne-Catherine t'avait partagé, d'analyser la distance que la balle fait. Moi, j'aime beaucoup voir ma trajectoire. J'aime beaucoup analyser, dire, bon, ben aujourd'hui, est-ce que c'est mon miss qui est une balle tirée à gauche qui sort? Ou aujourd'hui, mon synchronisme est quand même bon, je suis capable de sortir une balle droite. Ce qui fait que quand je vais arriver sur le terrain, si dans le champ de pratique, j'ai tiré absolument toutes mes balles ou un haut pourcentage, bien, je vais arriver sur le terrain et je vais jouer cette trajectoire de balle-là. Tandis que si une journée, je suis très bien synchronisée, puis dans le champ de pratique, j'ai l'impression que je suis capable de laisser aller les choses et que ma trajectoire de balle est plutôt droite, bien, je vais me permettre peut-être d'aller jouer des drapeaux de manière un petit peu plus droite vers le drapeau au lieu de me donner un petit peu d'espace là, pour ma balle manquée qui est à gauche. T'sais. Donc, je
Mais
pense que c'est ça qui est
c'est bon
important.
ce que tu dis justement, que même toi, professionnel du club de golf, tu sais, nos journées sont différentes les unes des autres, puis nos trajectoires sont pas toujours pareilles d'une journée à l'autre. Donc, je pense que c'est important de jouer avec notre trajectoire du jour, mais en même temps, la trajectoire qui sort dans le champ de pratique n'est pas nécessairement la trajectoire qui va sortir sur le terrain. Moi, c'est souvent l'opposé. Personnellement, pour parler d'expérience personnelle, souvent dans le champ de pratique, si je fais un effet de balle sur le terrain, ça a aucun lien parce que c'est pas les mêmes situations souvent. Donc, l'échauffement est fait pour s'échauffer, point, selon moi. Puis moi, c'est surtout pour les verts, là, que souvent que je vais potter beaucoup, là, pour aller voir la vitesse des verts qui change à chaque jour en fonction de la météo, en fonction de l'évolution de l'été aussi, là. Et moi, je regarde surtout ça.
Ouais, et aussi, on parle, tu sais, d'échauffement physique. C'est important que quand vous arrivez au champ de pratique, Vous prenez quelques moments pour faire des étirements, des exercices de rotation, de réchauffement. C'est sûr que si vous n'avez fait aucun exercice, la première chose que vous faites, c'est sortir 3 fer 7, 3 bois 3 puis 3 driver. Ça se peut qu'il y ait un petit mal de dos qui apparaisse à un certain moment. Ça se peut que vos bras, ça se peut que ça fonctionne un petit peu moins côté physiquement parce que votre corps va faire comme oh, attendez, là. Est-ce que j'ai une knockout punch en partant? Donc, prenez le temps à frapper des coups un petit peu plus courts. Moi, j'aime beaucoup commencer avec les coups d'approche. Je trouve que ça donne l'idée du contact avec la base. C'est des mouvements qui sont un petit peu plus courts. Ça demande vraiment un mouvement plus simple. Et après, dans le champ pratique, je pars vraiment de mes coups de wedge, donc un 30-75 verges, jusqu'à ultimement aller frapper quelques boîtes d'aller, quelques boîtes de départ. Je vous dirais que normalement, moi, entre une 20 à 25 balles, quand j'ai le temps de faire un bon warm-up, ça va ressembler à ça. Avec des bons étirements au début de ma séance, au niveau des jambes, au niveau du haut du dos, du cou, s'assurer que tout est déjà assez mobile avant que je commence à frapper. Et je vais finir après ça au potting parce que c'est pratique, là, c'est à côté du premier terre de départ. Donc, moi aussi, je vais aller voir le roulement de la balle. Puis, je vais aller voir aussi si le verre est dur. Est-ce que je vais devoir jouer un petit peu à court parce que la balle va rouler ou si je peux jouer un petit peu près du drapeau parce que la balle va stopper sur le verre à ce moment-là. Et il y a un dernier aspect qu'on ne parle pas souvent, que je n'ai pas entendu beaucoup de gens en discuter, c'est l'aspect mental d'un réchauffement. Donc, si on arrive, ça fait un peu du pouce sur ce que disait déjà Elisabeth, si c'est un réchauffement pour préparer le corps à frapper, ben c'est aussi un réchauffement pour préparer votre tête à votre concentration. Donc, si vous vous installez au champ de pratique et vous voyez déjà aucune ligne, aucune cible, vous voyez absolument rien, c'est sûr que sur le parcours, vous allez avoir de la difficulté à vous imaginer aussi des cibles ou des choses comme ça. Donc, prenez quelques balles aussi dans votre réchauffement, dans le champ de pratique pour assurer que vous ayez confiance à votre alignement. Les vraiment fondamentaux de base, que vous ayez confiance en votre prise, que vous ayez confiance en votre alignement, que vous ayez confiance à la cible dans laquelle vous vous dirigez. Toujours du côté positif de la chose et non pas j'ai peur de rater un coup parce que ça va aller mal sur le terrain, mais plutôt dans l'optique de c'est ce que je veux accomplir aujourd'hui sur le parcours. Voici mes repères aujourd'hui. Voici comment je me sens aujourd'hui. Ça se peut que des journées, vous allez être fatigué, mais dites-vous-le que vous allez être fatigué au lieu de vous dire réveille-toi. Non, je suis fatigué aujourd'hui. Je vais garder mon énergie. Préparez-vous un petit peu à adapter votre jeu selon justement vos habiletés ou votre fatigue ou votre énergie au niveau de la concentration.
C'est exactement ça. J'ai rien à ajouter là-dessus. C'est complètement ça que je voulais dire.
Élie, les champs de pratique, c'était quoi tes pratiques préférées? C'est quoi tes moments préférés aux champs de pratique?
C'est sûr que moi, j'aime beaucoup les pratiques en fin de journée. Les pratiques vers 4h30, 5h. On dirait que la température descend un petit peu, le soleil se couche, il y a moins de monde au champ de pratique. Puis à ce moment-là, on dirait qu'on est capable, en amis, de pratiquer des coups, de faire des petits concours sur des drapeaux. Tout ça. Ça, c'est mes pratiques préférées.
En équipe de deux. J'ai l'impression que c'est des petits throwbacks à nos camps d'entraînement.
Ça. Ouais, ça ressemble à ça.
Nos fins de journée où on s'évadait un petit peu. Moi aussi, c'est ça. Mais les pratiques que j'aimais beaucoup, beaucoup faire aussi de mon côté, c'est avec de la musique. Et mes entraîneurs à l'époque n'aimaient vraiment pas ça. Là. Mais moi, j'adorais ça puis c'est ce qui me faisait du bien. De mettre de la musique dans les oreilles. J'avais mon groupe préféré, je me faisais des playlists, je mettais mes écouteurs. Je pouvais passer 1 heure, 1 heure 30 dans ma bulle, dans mes choses, à faire chacune de mes étapes. Le seul moment où j'enlevais complètement ma musique, c'était dans ma période des simulations. Parce que, si on veut simuler ce qui se passe sur le terrain, mais j'ai clairement pas l'album de Panic at the Disco qui joue dans dans mes oreilles.
Mm-hmm.
Donc, je les enlevais à ce moment-là pour faire de la simulation. Mais je trouvais que je mettais ma petite musique, j'étais dans mes choses. Puis un des champs de pratique que j'ai aimé le plus, puis c'est drôle, c'est un souvenir que j'ai, c'est exactement ça. Fin de journée, j'étais tranquille avec ma musique au champ de pratique. Ça s'appelle World Woods en Floride. Puis c'est un petit peu au nord de Tampa. Puis c'était ça. C'était presque un 360, le champ de pratique. Puis, c'était des petites sections. Fait que souvent, avec le rouge et or, on était dans une de ces petites sections-là. Puis, on avait tellement de plaisir. Là, on était juste nous ensemble. Je mettais ma musique, je faisais mes choses de mon côté. Je regardais tout le monde s'entraîner. Puis, c'était motivant. Puis, c'était toujours aussi plaisant.
C'est drôle
Donc,
parce que toi, tu étais une fan de musique, mais moi, j'ai jamais, jamais écouté de la musique en m'entraînant. Jamais. Je mettais parfois des écouteurs, mais je n'étais même pas branchée avec mon cellulaire. C'était juste pour comme avoir la paix, puis que personne ne me parle. Mais je mettais jamais, jamais de musique. Puis c'est un peu avec toi que j'ai commencé à en écouter, mais vraiment plus sur le speaker, bien relax, là, dans un champ de pratique le soir, là, sans déranger personne, évidemment. Mais non, je ne sais
non,
pas.
exact.
Je suis moins une fan de musique que toi, je t'avouerais. Ouais.
Ouais. Mais les goûts musicaux ont un petit peu changé là, en ce moment. C'est plus si j'ai à pratiquer, c'est plus avec du Alexandra Strelitzky ou avec des beats un petit peu plus relax. Mais j'aime encore ça là. Bon, c'est juste moi, ça me permet de me concentrer. Puis c'est surtout ça dans le champ de pratique. Installez-vous dans un endroit où vous allez être capable de vous concentrer, vous ne serez pas trop dérangé, vous allez être capable d'être confortable dans votre zone de confort à vous. Puis ça va vous permettre de voir des entraînements efficaces. Et c'est ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite que vous passiez du bon temps, autant sur le champ de pratique, que vous optimisez vos moments, vos séances dans les séances d'entraînement. Puis bon golf. Bon golf tout le monde.
On espère que vous allez vous améliorer avec ces petits trucs pour s'entraîner de façon efficace. Puis on vous dit à bientôt.
Ouais, bonne semaine tout le monde.
Bye.
Bye bye.